La vie. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si vous êtes nouveau ici. Je m'appelle Madison. Je fais des essais vidéo sur des sujets d'actualité et la culture pop. Je suis également chanteuse et compositrice. Donc si vous aimez cette musique d'intro, allez écouter ma musique. Les liens sont dans la description. Aujourd'hui, je veux parler du véganisme des années 2010. Dans le sillage des guerriers des protéines, la propagande protéique qui s'est propagée sur Internet.
Vous savez quoi, le mieux que je me sois jamais senti, littéralement le mieux que je me sois senti tout au long de la journée, c'était lorsque j'étais au régime carnivore.
Je plaisante, je ne pense pas que ce soit de la propagande. Les protéines sont importantes. Mais, vous savez, nous vivons désormais dans un monde où le popcorn protéiné de la marque Kardashian est à la mode. Je suis littéralement tombée sur des bonbons gélifiés protéinés l'autre jour au magasin du coin. C'est comme si ça devenait réel. Et donc, de toute évidence, la nouvelle tendance en matière d'alimentation et de nutrition, ou même de culture diététique, c'est les protéines, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons pu observer ces dernières années avec l'essor du régime cétogène. J'ai vu une femme dévorer une barre de beurre en guise de collation l'après-midi, pour des raisons de santé et de bien-être. J'avais envie d'un petit remontant en marchant dans les rues de New York. J'ai donc pris ma barre énergétique préférée, une barre de beurre. Il n'y a rien de tel que de croquer dans du beurre froid, sans SPF, en ville. Cela m'a vraiment fait réfléchir. Comment en sommes-nous arrivés là en tant que société? Comment pouvons-nous accepter la consommation de viande crue, de beurre et de fibres comme régime alimentaire et le qualifier de sain? C'est vraiment fascinant, vous savez, de voir comment nous pouvons nous convaincre qu'une certaine façon hyper spécifique et restrictive de manger est normale et saine, et en fait meilleure que de simplement manger comme une personne normale. Et cela m'a amené au véganisme, en particulier au véganisme en ligne des années 2010, car bien sûr, toutes les tendances, qu'il s'agisse de la mode ou de la nourriture, ont tendance à aller dans des directions opposées. Vous savez, nous passons d'un extrême à l'autre. Et donc si l'on regarde le régime cétogène et ce qu'il a précédé, c'est l'ère du véganisme des années 2010. Ce qui est intéressant avec le véganisme ou tout autre régime extrême, c'est à quel point il est bien ancré dans ce mouvement de balancier que je viens de mentionner en ce qui concerne les tendances, car les gens aiment les solutions extrêmes pour obtenir des résultats extrêmes en termes de changements physiques dans le corps, comme les changements esthétiques. Et donc, tout comme le régime cétogène, le véganisme promettait également des changements physiques extrêmes dans le corps. Si vous mangez de cette façon, vous perdrez rapidement du poids et vous aurez un corps parfait, vous serez mince, peu importe. Mais je pense que les deux camps justifient la nature extrême du régime par la santé, du genre, oh, non, c'est la santé. Et le véganisme a une dimension supplémentaire, car il implique également une éthique, de l'empathie pour les animaux et le respect de l'environnement. Et cela a rendu cette époque du véganisme en ligne des années 2010 si difficile à appréhender et si intense, car pendant un moment, on avait l'impression qu'on ne pouvait rien dire de négatif à ce sujet, car on savait que c'était la façon la plus éthique de manger en tant que personne. Et si vous pensez quelque chose de négatif au sujet du véganisme, alors vous êtes juste un anti-environnementaliste égoïste et animaliste qui n'a ni morale ni éthique. Élise gifle cet énorme morceau d'animal torturé d'élevage industriel. Et comme elle est une frugivore, pas une carnivore, elle commence par saler intensément la viande pour masquer un goût de chair en décomposition. Elle fait de son mieux pour être méchante, mais finit par avoir l'air d'une idiote en faisant une grimace comique et immature et en essayant de minimiser une situation très grave. Et donc j'ai voulu, vous savez, être nostalgique et revenir à cette époque et la regarder sous un angle différent maintenant que nous en sommes à quelques années, et voir ce que nous pouvons apprendre de cette époque, n'est-ce pas? Parce qu'au bout du compte, l'équilibre de la santé est important. Les médias sociaux peuvent fortement influencer notre vision du monde, notre façon de nous traiter, notre façon de penser et même ce que nous mettons dans notre corps, ou ce que nous ne mettons pas dans notre corps. Et il est important de faire preuve de discernement lorsqu'il s'agit de ces choses, qu'il s'agisse d'être végétalien, de suivre un régime cétogène ou autre. Vous n'avez pas à vous sentir obligé d'adopter un mode de vie très spécifique, surtout si cela ne vous convient pas. Et ce n'est pas parce que quelque chose a une aura de santé ou une base, un fondement de santé, que ce sera toujours sain pour vous. Et tout mode de vie, tout type de régime peut être poussé trop loin. Et donc, peut-être, vous savez, en repensant à cette ère du véganisme, cela peut nous rappeler que, d'accord, tout est vraiment une question d'équilibre, et de ne pas stresser à ce sujet, parce que si vous faites quelque chose pour votre santé, et que vous en êtes obsédé et stressé tous les jours, cela va à l'encontre de l'objectif d'être en bonne santé, n'est-ce pas? Parce que se stresser n'est pas sain et ce n'est pas pour ça. Bref, c'était une longue introduction. J'ai beaucoup de réflexions sur ce sujet, bien sûr. Passons à la vidéo. Si vous traversez actuellement une épreuve, si vous vous sentez mal ou si vous recherchez une aide professionnelle pour des problèmes de santé mentale, Tolkatri pourrait peut-être vous être utile. Tolkatri est un cabinet psychiatrique. Cela signifie qu'ils sont spécialisés dans les médicaments pour les maladies mentales. Les affections les plus courantes qu'ils traitent sont le TDAH, l'anxiété, la dépression et les soins postpartum. Je sais que lorsque vous êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale, qu'il s'agisse de TDAH ou de dépression, il peut être très difficile de trouver l'énergie nécessaire pour trouver un prestataire, prendre rendez-vous, s'y rendre, etc. Cela facilite donc grandement la recherche de soins psychiatriques. TSIETRI accepte les assurances et fait partie du réseau de la plupart des grands assureurs. Il est 100% en ligne avec des horaires flexibles, vous pouvez donc recevoir des soins dans le confort de votre foyer sans vous soucier des trajets ou des longs délais d'attente. Il vous suffit de réserver en ligne à l'heure qui vous convient le mieux. Encore une fois, Tolkatri fournit une aide psychiatrique, ce qui signifie que des médicaments peuvent vous être prescrits si cela s'applique à votre situation particulière. Il n'y a pas de frais mensuels et Tolkatri dispose d'un groupe diversifié de psychiatres de grande qualité parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir parmi plus de 600 psychiatres avec une variété de spécialités. Leurs prestataires ont en moyenne 10 ans d'expérience. Vous pouvez donc être sûr que vous parlerez à quelqu'un de hautement qualifié. Donc, si vous ou quelqu'un que vous connaissez est aux prises avec cela et recherchez des soins, Tolkatri pourrait vous être très utile. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma description ou sur le code QR. Je voudrais donc commencer par les principaux aspects, les piliers du véganisme en ligne des années 2010, en particulier le véganisme cru. C'est en quelque sorte l'objectif principal ici. Je dois également préciser que ce n'est pas une vidéo anti-végétalienne. Je ne pense pas qu'être végétalien soit mauvais pour la santé. Comme je viens de le dire, n'importe quel mode de vie peut devenir mauvais pour la santé s'il est poussé à l'extrême. Mais ce qui est si intéressant dans le véganisme cru et que je veux mentionner en premier, c'est son aspect esthétique. C'était vraiment le style de vie parfait pour être popularisé en ligne en raison de son aspect attrayant. Il y a un article intitulé « Ma découverte du monde étrange du véganisme cru des années 2010 sur YouTube », dans lequel l'auteur raconte avoir été vraiment attiré par des créateurs comme Fuliro Christina parce qu'elle rendait sa nourriture si belle, colorée et attrayante, les salades et les smoothies, et tout ce style de vie de nomade numérique, qui était énorme à cette époque. C'était aussi à l'époque de la saturation de YouTube, je pense. Donc, je suis sûre que cela y est également lié. Mais le véganisme a l'air tellement glamour d'une certaine manière, même s'il a un côté un peu cru, croustillant et pieds nus. C'était quand même très esthétique. Et comme la viande crue sur une planche à découper n'est pas aussi esthétique qu'un acil, vous voyez? Quoi qu'il en soit, les visuels radieux et l'attrait apparemment sans effort pour le bien-être masquaient une science douteuse et donnaient l'impression que le régime était ambitieux. Je pense vraiment que l'aspect ambitieux du véganisme cru a joué un rôle important dans sa popularité, car cela semble assez difficile, surtout si vous n'êtes pas habitué à un mode de vie végétalien. C'est comme, oh mon Dieu, comment puis-je atteindre ce niveau de santé? C'est un peu comme la fille propre originale, vous voyez? C'est comme, comment puis-je atteindre ce genre de style de vie qui semble si pur et si ancré, mais qui nécessite aussi, je suppose, un aspect de discipline pour ne manger qu'un groupe d'aliments très spécifiques et en être pleinement satisfait et ne pas avoir envie d'aliments qui ne font pas partie de ce régime? Oh, je n'ai jamais envie de fast-food ou de nourriture non végétalienne, car il existe tellement d'options végétaliennes. Tout aliment non végétalien vous manque beaucoup. Je ne mangerai plus jamais. Mais bon, passons à autre chose. Une grande partie de cette ère du véganisme dont je ne pense pas que nous parlions assez, ce sont les allégations pseudo-scientifiques sur la santé qui ont alimenté son attrait. Et avec le recul, il est tellement évident que c'est comme du marketing. J'imagine que c'est juste un moyen de vous vendre ce style de vie. Mais eux, Fuliro Cristina, que j'ai mentionné plus tôt, a affirmé que ses yeux avaient changé de couleur après avoir adopté un régime végétalien. Et ce n'est probablement pas vrai. Beaucoup de professionnels de la santé, beaucoup d'experts ont dit. C'est une affirmation de base, ma fille. De quoi tu parles? Mais il y avait tellement d'affirmations associées au véganisme que tout cela s'est en quelque sorte mélangé en une grosse boule du genre devenir végétalien résoudra tous vos problèmes. Mais c'était une part importante du véganisme à cette époque. C'était comme ces récits vraiment dramatiques pour vendre aux gens, parce qu'au bout du compte, il y a quelque chose à vendre ici. Parce que beaucoup de gens dont on parle sont des influenceurs, et donc s'ils peuvent vous vendre ce style de vie, qu'ils dépeignent sur leur chaîne YouTube, plus ils gagnent d'argent et plus ils obtiennent de vues. Mais c'est comme ça que fonctionne le marketing au bout du compte. Ils ne font rien qui n'a jamais été fait auparavant. J'ai aussi oublié de mentionner qu'il sera question de troubles alimentaires. J'ai mentionné la culture du régime plus tôt, donc si cela vous dérange, vous pouvez simplement passer à autre chose. Comme je l'ai dit dans l'intro, il y avait beaucoup de promesses, car je ne sais plus quoi dire sur ce site web, car j'ai déjà dit l'expression WL auparavant et j'ai eu des vidéos littéralement démonétisées pour avoir dit ça. Donc si je dis des trucs bizarres pour éviter certains mots ou certaines phrases, sachez que j'essaie juste de rester monétisé ici. Mais il y avait beaucoup de rhétorique du genre manger autant qu'on veut sans prendre de poids. Et c'était un argument de vente énorme pour le véganisme à l'époque. Et je pense que lorsqu'il s'agit du véganisme et des troubles alimentaires, on peut les envisager sous de nombreux angles différents, car il y a un angle où beaucoup de gens ont développé une sorte d'ortho-orthoblanquia. Oh mon Dieu, orthoblanquia. C'est tellement détestable de devoir faire ça. Oh mon Dieu. Mais les gens développent cette obsession de manger sainement et de ne manger que des aliments sains, ce qui devient désordonné et malsain. Et puis il y a un autre angle où les gens ont eu du mal à manger dans le passé et ils utilisent le véganisme comme une couverture pour continuer à limiter leur consommation, mais en utilisant le véganisme comme une sorte de bouclier, car c'est comme sous couvert de santé, n'est-ce pas? Ou d'éthique. Mais il y a aussi la partie surconsommation dont je ne pense pas que les gens parlent assez, car généralement, quand on parle de SED, on parle de ceux où l'on limite sa consommation. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse composante de BINGE dans le véganisme, parce que, vous savez, les youtubeurs végétaliens disent « Oh, vous pouvez manger 50 bananes par jour, c'est bien et vous ne prendrez pas de poids. » Et au bout du compte, ce n'est pas une question de densité calorique d'un aliment qui compte. C'est une question de quantité que vous consommez. Et si vous en consommez tellement que vous ne vous sentez pas bien? J'ai trouvé la communauté des régimes riches en glucides et pauvres en graisse, et ce sont juste des femmes et des hommes jeunes, minces, rayonnants et beaux qui mangent des fruits et en mangent d'énormes quantités, ils perdent du poids et ils s'épanouissent. Vous savez, leur peau, toute leur acné a disparu. Ils ont diminué en 20 ans. Les affirmations miraculeuses m'ont touchée, j'ai cru en chacune d'entre elles. Et je me suis souciée plus de suivre ce régime que de toute autre chose. Ce régime était si important pour moi qu'il a occupé toutes mes pensées. Comme si je me réveillais et que je vivais chaque jour en pensant au repas que j'allais manger. Et c'est la période où j'ai accordé le plus d'importance à la nourriture de toute ma vie. Je me réveillais et je prenais ces énormes petits déjeuners, déjeuners et dîners. Je mangeais plus que jamais de toute ma vie et je me sentais terriblement rassasiée parce que je mangeais des repas énormes que je n'avais jamais mangés auparavant. Et je mangeais au point d'être tellement rassasiée parce que je pensais faire les choses correctement. Et parfois, je vomissais même parce que j'étais tellement rassasiée que je me disais que je ne pouvais littéralement pas fonctionner tant que je n'avais pas évacué une partie de cette nourriture. Mais de toute façon, le dernier pilier majeur du véganisme dans les années 2010 a été son déclin. Et je pense qu'il a atteint un tel sommet qu'il était voué à s'effondrer tout aussi rapidement. Évidemment, il y a encore beaucoup de gens qui sont toujours végans, mais je parle vraiment de la culture en ligne autour du véganisme, car tant de personnes sont devenues véganes et tout autant ont arrêté le véganisme. Et je pense que cela témoigne du manque de durabilité du véganisme. Non pas parce qu'être végane en soi n'est pas durable, mais parce que la culture en ligne qui l'entoure encourage un mode de vie irréaliste et non durable. Et je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que toutes les personnes qui sont devenues véganes, qui étaient des youtubeurs ou des influenceurs, ne l'ont probablement pas fait pour les bonnes raisons. Je pense que beaucoup de gens voulaient le faire parce que c'était à la mode, puis ils ont réalisé que ce n'était pas pour eux et qu'ils ne voulaient pas le faire. Ce qui est bien. On a le droit d'essayer différents modes de vie et régimes et de se demander si ça me plaît ou pas. Le nombre de vidéos du genre « Je ne suis plus végane » qui sont sorties à la fin des années 2010 était tellement fascinant. Et c'est dommage, car beaucoup de personnes sont sorties avec de nombreux problèmes de santé à cause du véganisme. Et il y a un créateur qui, je pense, était comme la reine des végans et qui a mené les gens sur une voie sombre. Et je suis sûre que vous savez de qui je parle, mais c'est un peu effrayant d'y penser parce que je pense qu'avec tous ces influenceurs qui sont devenus végétaliens, ils ont influencé beaucoup de jeunes à devenir végétaliens sans vraiment comprendre les risques pour la santé qui sont impliqués si vous ne le faites pas correctement. Et les gens se disaient juste « Oh, je vais juste devenir végétalien parce que mon youtubeur préféré est devenu végétalien sans vraiment comprendre la nutrition et comment prendre soin de son corps et le nourrir correctement. » Mais au-delà des aspects liés à la santé, je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes ont cessé d'être végétaliennes discrètement était due au drame et au harcèlement qui ont eu lieu. Par exemple, si vous étiez une personne en ligne qui était végétalienne, 9 fois sur 10, vous alliez être critiqué pour la façon dont vous avez choisi de devenir végétalien. Et je trouve cela vraiment fascinant et cela représente une part importante de la communauté végétalienne en ligne à cette époque. Je veux dire, c'était honnêtement à la hauteur de YouTube sur le maquillage et c'est arrivé à peu près au même moment. Donc, je suppose que c'était la culture en ligne sur YouTube à l'époque, mais il y avait tellement de pinaillage et de drames, et on ne pouvait pas rester assis avec ce genre d'énergie quand il s'agissait du véganisme. Et donc, cela m'amène à la star du spectacle, Miss Fley, la fille banane. Elle était la numéro 1 des végétaliens en ligne sur YouTube. Elle dirigeait tout comme un navire serré, un bateau banane même. Ouais, non, Freya la fille banane était quelque chose d'autre. Je regardais ses vidéos et j'avais une relation amoureuse avec elle parce que je savais que ce qu'elle faisait était un peu foireux, mais elle était divertissante et elle attirait tellement l'attention en ligne. Elle était vraiment comme une mère végétalienne. C'était fou. Donc, si vous ne savez pas qui est Freely la fille banane, c'était une Australienne. Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait une tache sur ma chemise. C'est tellement embarrassant. Donc, Freely la fille banane était une youtubeuse végétalienne australienne populaire connue pour ses défis extrêmes en matière d'alimentation crue. Comme je l'ai dit, elle mangeait 50 bananes par jour. C'était elle. Elle faisait des trucs de dingue comme ça. Mais elle était aussi très connue pour ses vidéos de confrontation intense où elle réagissait au régime d'autres youtubeurs, qu'ils soient végétaliens ou non. Généralement non végétaliens, je crois. Et elle critiquait simplement les gens pour ce qu'ils mangeaient. Je n'oublierai jamais que c'est ancré dans ma tête. Chaque fois que j'ouvre un œuf, j'entends librement la voix de la fille à la banane dire « C'est un œuf, point final. Tu manges un œuf avorté. » Mais elle a les poules. Pourquoi a-t-elle autant d'hésitation? Sérieusement, Rémi, écoute, tu sais, avoir un cycle de reproduction non fécondé d'une poule, c'est ce que sont les œufs, ça ne va pas être bon pour ton poids. Et s'il te plaît, ne peut-on pas oublier les poussins? Les poussins mâles qui sont broyés vivants à chaque fois. Elle a réussi parce qu'elle a en quelque sorte fait de la rage bait avant qu'on sache ce qu'était la rage bait. Mais oui, elle critiquait les gens en disant que si vous aviez de l'acné, c'était parce que vous n'étiez pas végétalien ou que vous preniez du poids parce que vous n'étiez pas végétalien. Et bien sûr, quand toute votre carrière consiste à interpeller les gens et à être très conflictuel, vous allez vous heurter à des critiques de la part de ses créateurs. Parmi ses créateurs, il y a Blogoti et Kay de Sainz. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Blogoti a tweeté comme si je n'essayais pas de la poursuivre en justice ou quelque chose comme ça, mais elle a quand même fait retirer certaines de ses vidéos en raison des droits d'auteur de Blogoti. Donc, il y a certainement beaucoup de drames entre elle et ses deux créateurs, mais Kayla a essayé de poursuivre Freely en justice pour des allégations incendiaires de Freely parce que Freely l'a également accusée de ne pas manger assez de calories et a dit qu'elle faisait la promotion du CED. Je pense que l'une de ses plus grandes querelles a dû être celle entre elle et Tana Mojo, qui n'avait que 17 ans à l'époque, ce que je trouve vraiment drôle et un peu étrange avec le recul. Mais oui, cette femme adulte cherchait la bagarre avec Tana Mojo. Je veux dire, elle faisait en gros ce qu'elle fait avec tous les créateurs, vous savez, les critiquer, eux et leur régime alimentaire. Tana étant Tana, elle a riposté et a décidé de faire ce que beaucoup d'autres créateurs n'auraient pas fait, c'est-à-dire se défendre et s'opposer librement à ce qu'elles disaient. Et donc elles ont fait des allers-retours et cela a créé tout un drame sur Internet qui a donné lieu au hashtag #TanoChallenge. Au bout du compte, que ce soit pour sa propre popularité, son propre argent, sa propre célébrité, ou simplement pour être vraiment passionnée par le véganisme et faire passer le mot, elle s'engageait, vous savez, elle le faisait, et nous le savons maintenant, mais à l'époque je ne pense pas que nous parlions vraiment de rage bait. Et créer tout ce drame, c'est comme la publicité parfaite pour le véganisme, ou pour son livre de cuisine végétalienne. Je ne sais pas. À vous de voir. Mais c'est un peu ironique, parce que, encore une fois, le véganisme est ancré dans l'éthique et la moralité, et il y a tellement de pureté associée au véganisme qu'on pourrait penser que quelqu'un qui se soucie des animaux, de l'environnement, du bien-être des gens et de leur santé serait plus doux ou empathique, ou tout simplement plus gentil, en fait. Et elle était tout le contraire. Elle n'était pas très gentille à mon avis. Je trouve ça drôle qu'elle ait utilisé ce genre de marketing rageur parce que c'était vraiment intense. Ses fans allaient sur les pages de ses youtubeurs et disaient « Regardez la vidéo de Frill ». Et c'était vraiment intense la façon dont elle ciblait les gens en sachant que ses fans allaient les attaquer et les inonder de commentaires parce qu'elle avait fait une vidéo sur eux. Et tout cela me rappelle un peu le genre de culture que nous observons en ligne aujourd'hui, où nous justifions l'intimidation, le harcèlement et les critiques au nom d'une cause moralement juste. Vous savez, c'est normal de dire des choses incendiaires et de s'en prendre à quelqu'un en ligne parce qu'il y a une justification morale derrière cela. Vous savez, cette ère du véganisme en ligne prouve vraiment que ce n'est pas ce que vous dites qui compte, ni ce que vous faites ressentir aux gens, n'est-ce pas? Et donc, si vous avez une conviction aussi forte, vous pouvez convaincre les gens de n'importe quoi, que ce soit ancré dans les faits ou non. Et beaucoup de ces affirmations sur le véganisme, la santé et tout ça n'était pas ancré dans les faits. Mais si vous vous tenez à 10 orteils en dessous, que vous êtes passionné et convaincu, vous pouvez dire aux gens que la couleur de vos yeux a changé parce que vous n'avez mangé que des fruits et des légumes pendant 2 ans, vous savez, des fruits et des légumes crus pour être précis. Et je pense que la raison pour laquelle les gens ont laissé Frilly être cette figure d'autorité dans la communauté végane en ligne, c'est parce qu'elle était si passionnée, si délibérée dans son contenu et si sûre d'elle lorsqu'il s'agissait de s'adresser aux gens, et cela a fait réfléchir les gens, oh eh bien, elle doit savoir de quoi elle parle. Surtout parce que, vous savez, elle avait un corps très en forme et donc c'est comme, eh bien, si elle mange comme ça et qu'elle a cette apparence, elle doit avoir raison. Si elle est suffisamment sûre d'elle pour aller en ligne et complètement démolir le régime alimentaire de cette personne, elle doit savoir quelque chose. Et les gens la traitaient sincèrement comme ça, pas seulement ses fans, mais d'autres youtubeurs. Par exemple, même si elle critiquait Jenna Marbles pour avoir pris du poids après avoir arrêté le véganisme, elle collaborait quand même avec Jenna Marbles et d'autres youtubeurs, d'énormes youtubeurs, parce qu'elle était considérée comme la déesse végane ultime, vous voyez. Et je pense qu'à cette époque, il était difficile de discuter avec quelqu'un comme Frilly, ou tout simplement avec le véganisme en général, car encore une fois, il était ancré dans une éthique et une morale si forte que si vous disiez « HM, je ne sais pas pour cette fille Frilly », ou je ne sais pas pour cette version internet du véganisme, vous étiez une mauvaise personne de le remettre en question, parce que c'était comme « Oh, donc vous vous fichez des animaux, donc, vous vous fichez de l'environnement, vous vous fichez de votre santé, vous voyez ?» Je crois que Jenna Marbles s'est même excusée après avoir été critiquée par Frilly, parce qu'elle se sentait mal, parce qu'elle voulait, vous savez, être une bonne végane et faire les choses correctement. Et tout cela étant dit, je veux parler un peu de la culture de la pureté associée au véganisme, car elle remonte vraiment à très loin. Et le véganisme a beaucoup évolué et a connu beaucoup de hauts et de bas en ce qui concerne les limites extrêmes et le jugement. Il y a eu tellement d'itérations du véganisme et de définitions différentes. Et il semble que cela signifie quelque chose de différent pour chacun. Je trouve cela vraiment intéressant et c'est probablement la raison pour laquelle il y a tant de drames dans la communauté végane, du moins à l'heure actuelle, car tout le monde n'arrive pas à s'entendre sur une définition unique. Quoi qu'il en soit, le premier concept de véganisme remonte aux anciennes cultures indiennes. Je parle de 1500 à 500 avant notre ère. Les philosophes grecs parlaient du végétarisme et de l'éthique qui l'entourait. On ne l'appelait pas simplement véganisme, c'était comme une forme de végétarisme. Ce n'est qu'en 1944 que Donald Watson a inventé le terme vegan. Mais même dans les années 1700, le véganisme ou le végétarisme était presque une forme de célibat et était présent dans de nombreux espaces religieux. Le cloître Ephrata, une secte religieuse stricte fondée en 1732 en Pennsylvanie, prônait le végétarisme ainsi que le célibat. Le philosophe utilitariste du XVIIIe siècle Jeremy Bentham pensait que la souffrance animale était tout aussi grave que la souffrance humaine et comparait l'idée de la supériorité humaine au racisme. Un autre exemple de végétarisme apparaissant dans des espaces religieux qui, honnêtement, semble un peu sectaire, est celui de la première société végétarienne en 1847. La première société végétarienne a été créée en 1847 en Angleterre. L'inventeur des biscuits Graham a cofondé l'American Vegetarian Society. Graham était un pasteur presbytérien et ses disciples, appelés Grahamites, obéissaient à ses instructions pour une vie vertueuse, le végétarisme, la tempérance, l'abstinence et des bains fréquents. Je pense donc qu'il est prudent de dire que le comportement sectaire avec le véganisme ou le végétarisme dans ce cas remonte à loin et qu'il n'a pas seulement commencé avec YouTube végétalien dans les années 2010. Mais lorsque nous abordons le véganisme en particulier et son invention dans les années 1940 avec Donald Watson, il avait en fait une perspective beaucoup plus décontractée sur le véganisme par rapport à aujourd'hui et à la façon dont il a évolué. Bien qu'il ait estimé qu'il était cruel de manger des animaux, il a décrit cela comme un régime alimentaire plutôt que comme un mode de vie global. Il y a une très bonne vidéo sur YouTube à ce sujet, réalisée par Jeff Nelson, intitulée You're Not Vegan, dans laquelle il parle de la communauté végétalienne, de son évolution et de son histoire. Il explique également que Donald Watson était davantage un végétalien soucieux de sa santé qu'un végétalien défenseur des droits des animaux. À l'origine, les droits des animaux n'étaient pas vraiment un élément essentiel du régime végétalien. Il a simplement créé le mot « végétalien » pour distinguer les personnes végétariennes qui mangeaient des œufs et des produits laitiers de celles qui n'en mangeaient pas. Cela a fini par perdurer et s'est transformé en une société végétalienne qui a commencé par une newsletter dans laquelle il parlait de ce régime. C'était un bon moment pour lancer le véganisme, car un an auparavant, 40% des vaches laitières britanniques étaient atteintes de tuberculose. Il a donc présenté le véganisme comme un régime alimentaire plus sain pour vous protéger de maladies comme la tuberculose à l'époque. Ce n'est qu'en 1946, 2 ans après la création de la Vegan Society et l'invention du terme « vegan », que des défenseurs des droits des animaux ont commencé à infiltrer le mouvement vegan et à le qualifier de mouvement pour les droits des animaux. Leslie Cross en était le chef de file. Leslie Cross est devenue membre du conseil d'administration de la Vegan Society et a essentiellement pris le relais et a donné au véganisme une nouvelle image. Donald Watson a fini par être complètement évincé parce qu'il n'était pas le bon type de vegan, comme le dit Jeff Nelson dans sa vidéo YouTube. Et Leslie Cross a souligné que si les droits des animaux n'étaient pas la raison pour laquelle on devenait vegan, alors on n'était pas un vrai vegan. Et je pense que c'est là qu'intervient cette division majeure, car je pense que, pour reprendre les critères originaux de Donald Watson, si vous suiviez un régime vegan, mais que vous mangiez du cuir ou utilisiez des produits créés par une entreprise qui fabrique également des produits non végans, vous étiez toujours vegan. Ce n'est pas si compliqué, mais une fois que vous entrez dans cette période de Leslie Cross, les choses deviennent un peu plus compliquées et pointilleuses. Et ce genre de philosophie s'est poursuivi dans le véganisme des années 2010 dont nous parlons. Dans la vidéo de Jeff Nelson, il a même mentionné un drame sur YouTube avec Carly Bible et comment elle a fait son coming out en tant que végane et que de nombreuses personnes l'ont critiquée en disant qu'elle n'était pas vraiment végane parce qu'elle utilisait du maquillage non cruelty free et portait du cuir. Et il appelle ces personnes des véganes égoïstes. Il explique que ce n'est pas vraiment le but du véganisme et que ça n'aide pas vraiment la cause de pinailler les gens et de dire que vous n'êtes pas un vrai vegan parce que vous ne faites pas X, Y et Z des choses parfaitement. Cela me rappelle un peu les gens de gauche sur les réseaux sociaux et la façon dont les gens qui peuvent être de votre côté sont toujours mis dans cette case d'ennemis parce qu'ils ne sont pas parfaitement en phase avec votre vision du monde et de la façon dont les choses devraient être. Et c'est dommage, car je pense que le véganisme pourrait avoir une bien meilleure réputation et que la communauté végane pourrait influencer les gens à devenir végans et à le rester longtemps s'il existait de meilleures tactiques pour y parvenir. Le harcèlement n'est pas une bonne tactique pour inciter les gens à s'en tenir à quelque chose. Mais, vous savez, avec toute cette pression pour la pureté, je pense que cela crée honnêtement une tempête parfaite en ce qui concerne les comportements dysfonctionnels, car non seulement vous avez des gens qui utilisent le véganisme pour masquer leur mauvaise relation avec la nourriture, mais cela crée aussi, je pense, une telle pression autour du fait d'être pur et d'être une bonne personne que les gens en deviennent tellement obsédés que ce n'est plus sain. Cela crée en quelque sorte cet état d'esprit, ce schéma selon lequel si je mange supé propre et purement végane, alors je serai une bonne personne. Je serai bien, je serai digne, vous savez. Et si je tombe, si je fais une erreur, si je mange du miel par accident ou même exprès, Dieu m'en préserve, alors je suis une mauvaise personne. Bien que je sache que les gens sont très préoccupés par les protéines, j'ai l'impression que le discours a changé et que les gens se préoccupent davantage de l'équilibre des macronutriments. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de fibres ou de protéines. Il s'agit de se constituer une assiette qui satisfait tous vos besoins nutritionnels tels que les glucides, les lipides, les fibres, etc. Et c'était un énorme problème pour la communauté végétalienne à l'époque, car il n'y avait tout simplement pas de matière grasse dans l'alimentation, ce qui entraînait une perte de règles, car les femmes ont particulièrement besoin de matière grasse pour leur santé hormonale. Et la fille à la banane était sur Internet en train de prétendre qu'elle n'avait pas ses règles, et elle était si heureuse et si soulagée. Et c'est pour ça qu'il faut devenir végétalien, car si vous êtes végétalien crudivore, vous vous débarrasserez de vos règles et tous vos problèmes seront résolus. N'est-ce pas dingue? C'est dingue. Des filles de 15 ans regardent ça en se disant « Oui, je ne devrais manger que des oranges, du melon et des bananes, et je n'aurai plus mes règles et je serai mince. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez, écoutez bien. Approchez-vous, d'accord. Ouvrez grand vos oreilles. Si votre régime alimentaire vous fait perdre vos règles, ce régime n'est pas fait pour vous et vous devez arrêter immédiatement et consulter un médecin. C'est l'une des pires choses que vous puissiez vous faire. La pire chose que vous puissiez faire à votre corps est de perturber vos hormones au point de ne plus avoir vos règles. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sain. J'ai l'impression que l'ère du véganisme des années 2010 a été tellement dévastatrice en raison de son caractère sectaire et du fait que tant de personnes étaient comme ça, cela a complètement détruit ma relation avec la nourriture. Tant de jeunes disaient que les vidéos de Freely avaient complètement changé ma façon de manger et de voir la nourriture, que je ne mangeais que des fruits et que cela avait des conséquences sur ma santé. Levez la main si vous avez déjà été personnellement victime de Freely the Banana Girl. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, continuez à faire défiler la page et je vous souhaite une agréable journée. C'est un espace sûr pour toutes les filles qui ont grandi en regardant Freely the Banana Girl pendant leur adolescence formatrice. Pourquoi ai-je retrouvé mon vieux journal intime? Freely, tu vas vraiment aller en prison. Comme si tu allais vraiment aller en prison. Oh mon Dieu, je ne vais pas mentir. J'ai l'impression que tant de troubles alimentaires chez les adolescentes de cette période, comme l'ère 2016 à 2017, pourrait être attribué à Freely the Banana Girl. Je la regardais religieusement. Les gars, j'essayais de convaincre mes parents de devenir végétalien parce qu'une femme aux bananes l'avait dit. À 14 ans, j'étais là, genre, oui, alors mange ce dîner. La femme aux bananes m'a dit que je ne pouvais manger qu'une myrtille par jour. C'est tellement triste de lire ça. Je crois que j'ai refoulé ces souvenirs. Mais les gars, je me souviens que la seule raison pour laquelle j'ai arrêté de la regarder, c'est parce qu'elle a commencé à se disputer avec tous mes favoris. Je me souviens qu'elle a commencé à se disputer avec Tenoro et je me suis dit, ouais, tu as dépassé les bornes maintenant. Et la culture qui l'entoure est tellement intense. C'est comme si je pensais que le véganisme cru était une sorte de drogue d'introduction vers des croyances plus conspirationnistes. J'ai fait une vidéo sur le mouvement Make America Healthy Again et je pense que le véganisme cru était un précurseur de cela, car il y avait beaucoup de végans crus qui étaient très terre-à-terre et croquants, qui ne croyaient pas aux vaccins, qui ne croyaient pas à certaines choses qui se sont répandues dans la politique et des choses comme ça. Vous pouvez regarder cette vidéo pour plus d'informations. Bien que maintenant, parce que nous sommes dans une autre époque, ce n'est pas le véganisme cru qui intéresse autant les gens. C'est plutôt du bio, peut-être plus de produits d'origine animale comme ça, du lait cru, etc. Je dirais que c'est en 2019 que nous avons vraiment commencé à voir un afflux de youtubeurs qui disaient « Je ne suis plus végane ». Un exemple est Rahana ou Ivana Mendoza qui a annoncé après 6 ans d'un régime végétalien cru strict qu'elle avait développé des problèmes de santé tels que des pertes de règles, dont nous avons parlé, de l'anémie et du SIBO, ce qui l'a obligée à incorporer des produits d'origine animale comme du poisson et des œufs. Cela a provoqué une énorme réaction négative, ce qui est un thème récurrent dans beaucoup de ses vidéos, car la communauté végétalienne de l'époque était tellement sectaire et agressive envers les personnes végétaliennes. Si vous disiez que vous n'étiez plus végétalien, ce qui était un grand pas en avant, si vous disiez que vous n'étiez plus végétalien, vous vous sacrifiez en quelque sorte à la foule. Beaucoup de personnes sont sorties en disant « J'avais de très graves problèmes de santé et je n'avais pas d'autre choix que d'arrêter d'être végétalienne, car dès que j'ai recommencé à manger de la viande et des produits d'origine animale, la vie est revenue dans mon corps. Ma peau a retrouvé son éclat. La vie dans mes yeux était à nouveau présente. Et c'était comme si, d'accord, ouais, eh bien, clairement, le véganisme n'était pas pour vous. Au moins une version du véganisme de l'ère Banana Girl, où l'on ne mange que des légumes crus. Je pense qu'il existe un moyen d'être végane et d'être en bonne santé, bien sûr, parce que beaucoup de gens le font et peuvent le faire pendant des années, voire toute leur vie, et s'en sortir. Mais je ne pense pas que les gens aient besoin d'être végan cru, pour être honnête. Être végan cru, c'est un peu trop, je trouve. Et encore une fois, pour être honnête, je pense que certains influenceurs l'ont fait parce que c'était à la mode et parce que tout le monde le fait et que c'était juste la chose à faire. Et ils se sont dit, ce n'est pas pour moi, je ne veux plus le faire. Ce qui, encore une fois, est assez juste. Mais, beaucoup de personnes qui étaient vraiment végétaliennes et dont toute la chaîne était consacrée au véganisme ou dont une grande partie était végétalienne ont fini par s'en éloigner à cause de leurs problèmes de santé. Je pense que l'exemple le plus intéressant était, je pense, Ro Alignment. Elle était une youtubeuse végétalienne et elle a arrêté d'être végétalienne et a fini par faire un défi carnivore de 30 jours, ce que je trouve tellement fascinant. Je ne lui diagnostique rien, je ne sais pas grand-chose sur elle ou son régime alimentaire. C'est un peu un exemple de ce cycle de restriction qui se produit lorsque vous souffrez de troubles de l'alimentation, où vous restreignez fortement certains aliments et que votre corps finit par en avoir tellement envie que vous arrêtez de vous restreindre et que vous vous lancez à l'extrême dans la direction opposée. Mais cela vous montre aussi que l'équilibre est important. Ce n'est pas que le carnivorisme ou le véganisme soit meilleur que l'autre. Et si nous nous retrouvions juste au milieu? Je ne sais pas. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que leur corps n'a pas besoin de fibres. C'est dingue pour moi. Mais oui, j'ai juste l'impression que collectivement, en tant que société, nous traversons un cycle de restriction où nous nous sommes restreints et avons tous été végétaliens pendant quelques années en pensant que c'était la meilleure façon d'être. Et maintenant, nous sommes dans cette ère de régime carnivore obsédé par les protéines et le foie. Et c'est juste comme, qu'avons-nous pas appris de la dernière? Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que l'exode massif du véganisme et de l'espace YouTube touche vraiment à quelque chose d'important, à savoir que vous ne devriez vraiment pas mettre autant de votre identité dans un régime alimentaire. Cela peut être vraiment restrictif et dangereux de mettre autant de votre personnalité et de qui vous êtes dans un régime alimentaire, dans les types d'aliments que vous mangez, car votre corps change constamment et peut avoir besoin de choses différentes au fil du temps. Et surtout avec le véganisme, car encore une fois, il y a tellement de moralité et d'éthique qui y sont liées. Votre public se sentira trahi ou aura l'impression que vous êtes faux ou faux. Tu as menti tout le temps une fois que tu as décidé de changer. Mais c'est normal que les gens changent. D'accord. Écoute. J'ai été végétarienne pendant environ 5 ans, ce qui est assez long pour ne pas manger de viande, du moins pour moi. Et je n'ose pas imaginer ce que ça donnerait si c'était toute ma personnalité en ligne et que les gens me suivaient parce que j'étais végétarienne, et que tout d'un coup je ne le suis plus et que tout le monde me déteste ou pense moins bien de moi à cause de ça. Tu vois ? Et c'est encore pire parce que beaucoup de gens ont développé des problèmes de santé à cause de ça et ont quand même été critiqués. Certaines de ces vidéos où les gens expliquaient pourquoi ils n'étaient pas végétaliens étaient imprégnées de beaucoup de honte et de tristesse parce qu'ils n'arrivaient pas à s'y tenir et que leur corps ne supportait tout simplement pas d'être végétalien. C'est probablement à cause de ça. Je crois que quand j'étais végétarienne, je pensais que le but ultime était d'être végétalienne, ce que je n'ai jamais atteint, ce qui est bien. Pour être honnête, je suis plutôt contente de ne pas l'avoir été. Non, je ne pense pas. Le véganisme est mauvais ou, vous savez, c'est une chose horrible ou mauvaise pour vous. Il est juste important d'être conscient de votre alimentation. Et ça me fait peur que tant de jeunes filles deviennent végétaliennes sans vraiment comprendre comment le faire correctement ou le fassent pour des raisons d'image corporelle afin de pouvoir restreindre davantage ce genre de choses. Et dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous déjà été végétalienne? Êtes-vous toujours végétalienne? Ne l'êtes-vous plus? Que pensez-vous de la fille banane? Que pensez-vous des protéines? Je devrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Je sais. Je crois que Drew Gooden a fait une vidéo sur les protéines et tout ça. J'étais un peu réticente parce que j'avais cette idée que je devrais peut-être en parler. Mais j'aime bien les bons moments protéinés. Je donne vraiment la priorité aux protéines. Donc je ne suis pas contre les protéines ou quoi que ce soit. Alors oui, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.